22h.
C'est l'heure du journal. Stéphane Place.
Nous avons donné des instructions très claires pour que des contrôles soient faits dans toutes les gares, dans tous les aéroports.
Le ministre de l'Intérieur n'annonce pas de mesures supplémentaires, mais Christophe Castaner prévient une application plus stricte des mesures de confinement. C'est la consigne passée aux gendarmes et aux policiers. Des contrôles qui pourront aussi être opérés par les policiers municipaux. Ces derniers vont pouvoir dresser des PV également. À Nice, le maire annonce la mise en place d'un couvre-feu dès demain. Circulation interdite de 23h à 5h du matin. Sauf bien sûr pour les professionnels de santé. Dans ce journal, nous retrouverons Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur. Rentrer en France, retrouver l'Hexagone, un calvaire pour nombre de nos compatriotes bloqués à l'étranger qui en appellent au Quai d'Orsay pour trouver une solution.
Je ne comprends pas qu'au bout d'une semaine, on n'ait pas pu mettre en place ces rapatriements. Apparemment, il devait y avoir des rapatriements sur l'Allemagne. Punaise, comment ça se fait qu'en France, ça ne se passe pas?
Et partout en Europe, les pays limitent un peu plus les déplacements des populations, ferment carrément leurs frontières parfois, comme en Belgique ce soir. C'est notre respiration, elle nous attend à la fin de cette édition, notre bouffée d'air quotidienne qui montre la solidarité du pays. Les Français, encore ce soir, ont applaudi leurs soignants, leurs médecins. Nous écouterons le reportage à la fin de ce journal de Nicolas Fellmann.
On trouvait ça assez génial, on s'embête un peu comme tout le monde. Nos voisins ont dansé de 20h à 20h05 et c'est déjà une grande victoire.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Les départs en vacances ou en week-end ne font pas partie des cas visés par des dérogations au confinement. C'est le rappel ferme des autorités ce soir. Pas de mesures supplémentaires, mais des contrôles plus stricts encore face à l'indiscipline de certains qui ne prennent pas suffisamment au sérieux le confinement. À l'issue du nouveau Conseil de défense qui s'est tenu cet après-midi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a haussé le ton.
Il en va de la vie de personnes que l'on aime. Il en va de sa propre protection. Il en va de la protection de nos familles, de nos enfants. Il est donc essentiel de respecter ces règles. Elles sont simples. Je sais qu'elles sont contraignantes, mais elles sont simples. Elles sauvent la vie de ceux que l'on aime. Et donc, elles impliquent cet effort-là. Nous ne devons rien relâcher. Et les forces de sécurité intérieure ne relâcheront rien. Et j'ai demandé que des efforts soient portés ce week-end pour que les plages auxquelles on a l'habitude de se rendre et sur lesquelles on aime flâner ne soient pas ce lieu-là pendant ce week-end. J'invite chacune et chacun à bien respecter ce qui fait le vivre ensemble, notre citoyenneté, et qui garantit la protection de chacune et chacun. C'est un combat que nous menons. Il implique des règles strictes, mais simples. Ne cherchons pas à les détourner, sinon nous sanctionnerons.
Et les policiers municipaux pourront venir prêter main forte à leurs collègues de la police nationale et aux gendarmes pour verbaliser celles et ceux qui ne respectent pas le confinement. Pas de couvre-feu national, en revanche, a indiqué Christophe Castaner. Couvre-feu que va mettre en place la mairie de Nice. Ça a été confirmé en début de soirée et on a appris tout à l'heure que ce serait dès demain de 5h à 23h. Un arrêté municipal est en cours de validation. Le texte est actuellement sur le bureau du préfet des Alpes-Maritimes, qui doit donner son feu vert. Ce couvre-feu interdira donc durant toute la nuit le déplacement, la circulation, sauf bien sûr pour les professionnels de santé notamment. Frédéric Michel, vous êtes le correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur. La municipalité niçoise déploie les grands moyens, drones compris, pour faire respecter le confinement.
Effectivement, et depuis le début de l'après-midi, la promenade des Anglais, le trottoir sud côté mer est fermé par arrêté municipal. Des barrières ont été posées tout le long de cette promenade mythique et d'autres lieux publics dans la ville ont désormais également été interdits. Trop de monde profite du beau temps en bravant l'interdiction de sortir et de se réunir. Le préfet des Alpes-Maritimes a donc sollicité une entreprise privée pour épauler à l'aide d'un drone les forces de l'ordre. Ce drone est équipé d'un haut-parleur et ordonne à tous de rester chez soi.
Rappel des consignes relatives à l'épidémie de Covid-19. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits.
Alors ce drone est utilisé à Nice et à Cannes, mais d'autres mesures ont été prises pour notamment frapper au porte-monnaie les contrevenants, car parfois c'est la seule façon de faire comprendre les choses. Les PV vont pleuvoir et les policiers municipaux vont eux pouvoir à leur tour émettre ces contraventions de quatrième classe. Richard Gianotti, le directeur des sécurités et chef de la police municipale de Nice.
dans le cadre de l'examen de la nouvelle loi portant sur l'état d'urgence sanitaire. Et après promulgation de la loi, les policiers municipaux seront compétents pour verbaliser le non-respect de cette mesure de confinement. Il est malheureux pour protéger nos concitoyens qu'on en arrive à les verbaliser alors que le bon sens commande de rester à la maison pour se protéger soi-même et pour protéger ses proches.
Et pour non-respect du confinement, l'amende est passée à 135 euros. De quoi réfléchir.
Merci Frédéric Michel. Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 à Nice. Partout dans le pays, les autorités locales renforcent les dispositifs de lutte contre la propagation du virus. À Paris, ce sont les voies sur berge, les pelouses de l'esplanade des Invalides et du Champ de Mars qui sont interdites à la circulation désormais. Interdiction nouvelle également le long du littoral. Comme dans le sud, les préfectures de la Somme, de la Manche et de la Seine-Maritime ont fermé les plages ce week-end jusqu'au 31 mars. Il faut dire que le bilan en France s'alourdit d'une journée à l'autre. Ces dernières 24 heures, l'épidémie a causé la mort de 78 personnes supplémentaires, portant aujourd'hui le bilan de la pandémie à 450 victimes. Plus de 5000 malades hospitalisés et la moitié des patients admis en réanimation ont moins de 60 ans. Des informations données en fin de journée par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.
Les effets du confinement ne sont pas immédiats. Vous le savez, la période d'incubation du virus varie de 2 à 14 jours. Ainsi, de nombreuses personnes aujourd'hui confinées sont porteuses ou ont été contaminées avant le confinement. Ils ne sont pas encore forcément malades et avec des symptômes. On attend un pic entre 5 et 8 jours. Au total, une durée pouvant aller de 10 à 22 jours pour avoir l'efficacité maximale de la modification de comportement. En tout cas, c'est ce qu'on a observé en Chine et ce qu'on a observé en Italie. La prolongation du confinement est une possibilité. Cela dépendra évidemment de l'évolution de l'épidémie, mais surtout de l'application par toutes et par tous du confinement. Le gouvernement et les autorités sanitaires seront donc très attentifs aux données et aux évolutions du comportement de nos concitoyens afin de prendre les décisions qui s'imposeront.
Jérôme Salomon, le directeur général de la santé en France. À Mulhouse, ont commencé les préparatifs pour déployer l'hôpital militaire de campagne qui doit être implanté sur le parking du CHU. Dans les prochains jours, ce sont 30 lits d'hospitalisation qui permettront de désengorger les services de réanimation du Grand Est. Et puis l'armée mobilisée également en Corse ce week-end. C'est la Marine nationale qui va évacuer une dizaine de patients en réanimation sur l'île. Un porte-hélicoptère accostera à Ajaccio pour transférer ces malades vers des établissements de soins de la Côte d'Azur. Le virus, on le sait, ne se propage pas tout seul. Alors en Europe, ce soir, les autorités limitent un peu plus les déplacements des habitants. Outre-Rhin, deux régions allemandes, la Sarre et la Bavière, passent au confinement. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson ordonne la fermeture des pubs, des restaurants, des cinémas, des théâtres. En Belgique, ce sont les frontières qui sont fermées pour tout déplacement non essentiel. Concrètement, les ressortissants belges peuvent rentrer de l'étranger et le trafic du fret et des camions reste autorisé. Les poids lourds, indispensables à la poursuite des activités économiques et des livraisons qui permettent d'approvisionner les commerces, la grande distribution, bref. Pour chacun d'entre nous, eh bien, ce sont tous les points de vente encore ouverts qui en dépendent, des points de vente où l'on peut faire ses courses. Et pour ces conducteurs de camions, la tâche est d'autant plus compliquée que les aires d'autoroute ferment l'accès aux douches, aux restaurants. Le gouvernement a pris les choses en main, Aurélien Fleurion.
Oui, et on peut dire que les choses commencent à revenir dans l'ordre à partir d'aujourd'hui. Le ministère des Transports nous a indiqué que beaucoup de stations d'autoroute sont en train de réactiver leurs services, comme l'accès aux sanitaires. Les relais routiers qui permettent la vente à emporter sont aussi, nous dit-on, en train de rouvrir petit à petit. Pour que la situation évolue, il a fallu que le gouvernement mette un petit coup de pression à la fois sur les sociétés d'autoroute et sur les exploitants de ces aires et des stations-service qui en dépendent. La consigne a été passée de veiller à ce que même quand l'accès à l'intérieur de l'air est filtré, eh bien les sanitaires et les douches doivent rester accessibles. Pour l'accès à la nourriture, il a été demandé aux exploitants des boutiques d'autoroute de mettre en place un système de passe-plat pour les conducteurs de poids lourds. Et pour que ces routiers n'aient pas de mauvaises surprises sur leur trajet, Bison Futé va publier une carte de France actualisée avec tous les sites ouverts. Elle sera mise en ligne dans la nuit.
Aurélien Fleuron du service économie d'Europe 1, l'occasion aussi pour nous de saluer ces routiers qui nous écoutent sur la route. Autre difficulté que connaissent nombre de nos compatriotes, celui du retour en France. Ils sont très nombreux à être coincés à l'étranger alors que les liaisons aériennes sont interrompues souvent. Le Quai d'Orsay s'efforce de débloquer les situations qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Cela reste parfois très difficile, Pauline Jacquot.
Oui, la République dominicaine notamment, je suis en contact avec un groupe de Français bloqués depuis plusieurs jours sur l'île et certains d'entre eux vont pouvoir rentrer dans les prochaines heures. Deux avions Air France décollent ce soir de Punta Cana. Christine a pu acheter son billet, elle espère enfin pouvoir rentrer à Paris.
C'est l'enfer parce qu'on n'a pas profité de nos vacances. L'ambassade de France nous dit, vous inquiétez pas, vous serez prévenus, vous inscrivez sur Ariane. Vous serez prévenus du rapatriement, tout le monde sera rapatrié en fin de semaine. Or, le temps passe, on n'a pas eu cette confirmation, donc on a pris les devants. À titre personnel, on paye 2000 euros pour un aller simple pour deux personnes. Quoi.
D'autres n'ont pas pu réserver de place sur ces vols. Chacun essaye de contacter son agence de voyage de son côté, mais très souvent, il faut se débrouiller tout seul. Les Philippines, Madère, l'archipel portugais et les Canaries en Espagne font aussi partie de ces cas particuliers où la coopération est difficile, a dit le ministre Jean-Yves Le Drian. Les Canaries, où Frédéric est toujours en attente d'une réponse de l'ambassade.
Moi, je ne comprends pas qu'au bout d'une semaine, on n'ait pas pu mettre en place ces rapatriements. Les Allemands, apparemment, hier, l'aéroport des Grands Canaries était plein d'Allemands, donc ça voulait apparemment signifier qu'il devait y avoir des rapatriements sur l'Allemagne. Punaise, comment ça se fait qu'en France, ça ne se passe pas, quoi, et que la France ne se passe pas pour les... Apparemment, ils l'organisent pour Tenerife, pour les autres îles, mais Grand Canaria, ben, rien.
Il y a urgence, me dit une Française aux Philippines, car les hôtels commencent à fermer et nous avons peur de bientôt ne plus pouvoir nous loger.
Merci, Pauline Jacquot.
Europe 1.
Prendre des congés alors que vous êtes confiné à la maison, bloqué chez vous. Vous ne l'aviez pas forcément prévu, mais vous pourriez bien ne pas avoir le choix. Le Parlement examine en ce moment un projet de loi qui permettra au gouvernement de trancher la question rapidement. Une disposition qui autoriserait les employeurs, Olivier Samin, à tout bonnement imposer des dates de vacances aux salariés.
Oui, l'idée du gouvernement, c'est de donner de la latitude aux entreprises dans cette période hors norme pour réorganiser des congés payés, alors que la loi, aujourd'hui, encadre strictement les choses et n'autorise l'employeur, dans certaines circonstances exceptionnelles, à modifier les dates de départ qu'à la condition de respecter un délai de prévenance d'un mois. Le projet de loi examiné depuis deux jours au Parlement vise à permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés, et ce, sans respecter le fameux délai d'un mois. L'entourage de Muriel Pénicaud considère que c'est un effort raisonnable demandé aux salariés, qui doivent avoir conscience du fait que l'État met en place un dispositif jamais égalé dans l'histoire pour éviter les licenciements et que chacun, du coup, doit faire une partie du chemin. Un amendement voté il y a quelques heures par le Sénat encadre cette latitude nouvelle donnée aux entreprises. Il prévoit que seulement 6 jours ouvrables de congés payés pourraient être imposés aux salariés par l'employeur sans observer de délai de prévenance. C'est le côté unilatéral de la décision de l'employeur qui ne passe pas du côté des syndicats. La CFDT, par exemple, considère que seul un accord négocié dans l'entreprise peut autoriser une telle dérogation.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Maintenir l'activité économique et motiver les salariés qui continuent de travailler dans cette période ô combien difficile, souvent avec la crainte d'être contaminés par le coronavirus, Bruno Le Maire invite les entreprises à leur verser une prime exceptionnelle de 1000 euros. 1000 euros net, puisque cette prime sera défiscalisée, dit le ministre de l'économie. Un bonus, un coup de pouce, qui pourra profiter aussi au personnel hospitalier. Et puis, c'est une première et un signal fort. Ce soir, l'Union européenne suspend les règles de discipline budgétaire. Les États membres vont donc pouvoir dépenser autant qu'ils le jugent nécessaire pour soutenir leur économie mise à mal par cette crise sanitaire. Depuis plusieurs jours, cela fait chaud au cœur, nous l'entendons chaque soir, notamment avec Nathalie Lévy à 20h sur Europe 1. Vous avez vous-même sans doute perçu, peut-être dans votre propre quartier, et j'espère participer à ces applaudissements. Tous les soirs, les Français applaudissent à 20h, les médecins, le personnel soignant en première ligne contre le coronavirus. Autre initiative, elle a été lancée ce vendredi soir, la fête au balcon. Le concept, Nicolas Feldman, c'est assez simple. Tous les musiciens ont été appelés à jouer pendant une heure, de 20h à 21h, pour manifester cette solidarité. Et puis, certains de ces jeunes, d'ailleurs, à défaut de posséder la maîtrise d'un instrument, ont tout simplement installé des enceintes.
sixième étage d'un appartement parisien, enceinte tournée vers la fenêtre, table de mixage côté rue, Thomas au platine passe du Gloria Gaynor, sa compagne Juliette filme ce concert improvisé.
On s'embête un peu comme tout le monde et on se dit, bah tiens, on va se faire bouger notre quartier qui n'est pas vraiment le quartier le plus festif de tout Paris, mais nos voisins ont dansé de 20h à 20h05 et c'est déjà une grande victoire.
Alors au balcon d'en face ce soir, pas encore full, mais le couple espère que l'initiative prendra, comme cela a été le cas avec les applaudissements à destination du personnel soignant.
Le premier jour où il fallait applaudir, bah, il n'y avait personne dans notre quartier et le lendemain, il y avait plus de monde. Donc en fait, ça se trouve, le week-end prochain, ce sera la grosse teuf.
À l'origine de cette fête au balcon, Mazen et Benjamin, deux amis dans l'événementiel.
On a décidé de lancer cet événement en hommage à tous les personnels de santé qui luttent tous les jours pour pouvoir sauver des vies. Et nous, du fait qu'on est confinés un peu chez nous, la seule manière qu'on avait de sauver la France, c'est de rester chez nous et éventuellement bah, d'apporter un peu de bonheur à nos voisins en musique.
Il y a du bonheur en musique, mais il y a quand même quelques règles. Cette fête, c'est uniquement le vendredi soir et pas après 21h. Pour savoir qui joue près de chez vous, vous pouvez retrouver une carte interactive sur Facebook. Près de 500 musiciens ont répondu présents ce soir dans toute la France.
Et voilà qui fait effectivement du bien, quelques notes de musique. Eux ne chantent pas, ou en tout cas discrètement, peut-être quand ils font leur séance d'abdos. En tout cas, ils ne jouent plus. Le monde du foot est à l'arrêt. Aujourd'hui, ce sont les joueurs de l'Olympique de Marseille qui ont appris que le club les mettait au chômage partiel. Face à cette situation, Cyril de la Morinerie, le président de la Fédération française de football, envisage de prolonger, et ça serait totalement exceptionnel, le championnat de France jusqu'en juillet.
Oui, c'est 15 jours plus tard que les préconisations de la Ligue de football, car Noël Le Graët ne voit pas comment il serait possible de terminer le championnat fin juin avec en plus les matchs de l'équipe de France et la Ligue des champions. Avec ces 15 jours de plus, ça passe sans problème, explique le patron du foot français. Seule difficulté, et cela concerne les acteurs du jeu. Certains contrats arrivent à échéance fin juin. En clair, début juillet, plusieurs joueurs seront libres. J'ai donc contacté le président de l'UNFP, le syndicat des joueurs. Philippe Piat propose au club de prolonger les contrats d'un mois dans les mêmes conditions.
Il reste une infime minorité de joueurs qui seront en fin de contrat. Soit ils veulent arrêter la carrière, soit ils ont des offres dans notre club étranger. Et donc, peut-être qu'ils refuseront, mais ça sera une extrême minorité.
Noël Le Graët va prochainement envoyer un courrier à l'UEFA pour faire cette proposition. La Ligue se rangera derrière l'avis de la fédération, qui de toute façon est décisionnaire. Rappelons que le football français a déjà dû s'adapter par le passé. Souvenez-vous de mai 68, cette année-là, les barrages du championnat s'étaient joués au mois de juillet.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. On jette bien sûr un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. La parenthèse ensoleillée va se terminer dans le nord du pays. Quelques ondées sont à prévoir demain, Anissa.
Oui, effectivement, Stéphane, encore demain, sur la moitié nord du pays, le ciel sera très couvert, avec même sur le quart nord-est, des Ardennes jusqu'à l'Alsace, des faibles averses dès le lever du jour. Alors au sud de la Loire, là, le ciel est plus dégagé, avec encore sur le golfe du Lion, des entrées maritimes accompagnées de vent d'autant jusqu'à 70 km/h en rafale. Et puis dans l'après-midi, les averses vont gagner la moitié sud. Alors ce sont des averses qui vont toucher uniquement les reliefs. Le vent du nord, lui aussi, il souffle. C'est un vent de nord-nord-est qui souffle même dans les terres, sur la Picardie, la région parisienne, le centre-val de Loire, jusqu'à 50 km/h. Il n'y a finalement que sur la Nouvelle-Aquitaine que la journée sera belle. Demain, partout ailleurs, c'est assez mitigé quand même. Les températures, nous aurons des gelées matinales dans les vallées alpines et sur les Pyrénées. Et en moyenne, nous aurons 4 à 8 degrés sur l'ensemble de la France le matin, jusqu'à 10 au bord de la Méditerranée. Dans l'après-midi, ça baisse très franchement, avec 8 degrés à Nancy et Strasbourg, 11 à Paris, 14 à Dijon, 16 à Nice et Rennes, 14 à Marseille et 21 degrés pour Cahors.
Merci Anissa Haddadi pour cette météo. Je retiendrai en bordelais chauvin que je suis qu'il fera quand même beau demain sur la Nouvelle-Aquitaine. Nous voilà préservés.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Juste avant, l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Patrick O'Quinn, qui est le président de la Fédération des entreprises de la beauté. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Alors que la France affronte une crise sanitaire exceptionnelle, Europe 1 plus que jamais se mobilise pour vous accompagner, vous informer, vous divertir aussi.
7 jours sur 7, tous nos animateurs et journalistes bousculent leur programme.
Pour vous offrir, grâce à un dispositif technique exceptionnel, une radio ouverte à toutes vos questions,
toutes vos interrogations, toutes vos réactions.
Rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux avec le hashtag Radio Ouverte.
Et pour nous joindre, un seul numéro, 3921.
50 centimes la minute.
Tous les bénéfices seront reversés à l'Institut Pasteur.
Europe 1, écoutez le monde se mobiliser.
La bourse à présent avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Les inquiétudes font déjà leur retour à Wall Street. La bourse de New York clôture ce soir en forte baisse.
Oui, on repart en baisse alors que le coronavirus progresse toujours. Deux des États américains les plus peuplés, la Californie et New York, ont pris des mesures de confinement qui vont bien sûr peser très lourd sur l'économie. Le résultat, c'est un Dow Jones qui perd 4,55%, 19 174 points. Le Nasdaq recule, lui, de 3,79%, 6 880 points. Marche arrière donc pour des grandes valeurs comme Coca-Cola qui lâche 9%, Walt Disney moins 7%. C'est mieux pour les compagnies aériennes. Elles attendent une aide massive de Washington alors que leurs avions sont cloués au sol. United Airlines gagne par exemple 15%. Les loueurs de voitures aussi attendent des coups de pouce. Hertz grimpe de 23%. Avis plus 13%. Le pétrole continue de faire le yo-yo. Il perd 8% ce soir à New York. Et puis l'euro recule moins 0,3% à 1,0657.
Alors Claire Lemaître, il faut quand même le dire, la séance ça a été positive en Europe. À Paris, le CAC 40 gagne 5%.
Oui, plus 5,01% précisément pour le CAC 40 qui termine une semaine très volatile, très hésitante à 4048 points. La baisse est limitée à 1,7% sur la semaine grâce aux plans de soutien colossaux des banques centrales et des gouvernements. Très belle séance aujourd'hui pour des valeurs qui sont malmenées par l'épidémie. Ça s'améliore donc pour l'aérien avec Airbus plus 18%. Ça s'améliore pour ADP, Aéroport de Paris, plus 23%. Et pour Air France, KLM, un petit 1,5%.
Ouais, séance de très forte hausse aussi pour Accor Hôtel.
Oui, Accor Hôtel qui est en pleine tempête, comme tout le secteur du tourisme. L'action remonte de 15%. On notera aussi la très forte progression dans le secteur pétrolier de Technip FMC, plus 32% pour Technip, plus 31% également, par exemple, pour la banque Natixis. L'heure est à la hausse partout en Europe ce soir, avec un gain limité de 0,8% pour Londres, plus 3,7% pour Francfort, plus 1,7% pour Milan, plus 0,7% pour Madrid. Bruxelles plus 5%, plus 5% aussi pour le CAC 40 à Paris.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité éco, rendez-vous incontournable de ce journal du soir. Se laver les mains plusieurs fois par jour est devenu pour chacun d'entre nous un impératif. Les entreprises du parfum se mobilisent précisément pour fournir gels et savons. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Patrick O'Quinn, qui est le président de la Fédération des entreprises de la beauté.
Bonsoir Patrick O'Quinn.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de la Fédération des entreprises de la beauté. Beaucoup d'entreprises de votre secteur ont décidé d'arrêter de produire ce qu'elles font d'habitude, hein, des parfums, des crèmes, etc., etc., pour venir au secours des besoins de l'État, notamment pour produire ce fameux gel hydroalcoolique, mais pas seulement. Déjà, quelle est la proportion des entreprises de votre secteur qui ont muté vers ces nouvelles activités ?
Alors, en premier lieu, effectivement, un certain nombre de nos adhérents ont décidé de reconvertir une partie de leur chaîne de production vers la fourniture de gel hydroalcoolique. Il ne faut pas non plus oublier que nous sommes des producteurs de savon et que, comme cela a été répété à plusieurs reprises, les savons, l'eau et le savon sont également de très bons moyens de lutte contre la propagation du virus. Donc, aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine d'entreprises sur les 350 adhérents de notre fédération qui ont décidé de reconvertir tout ou partie de leur outil de production pour se consacrer à la production de ce gel hydroalcoolique, sachant qu'une partie d'entre elles vont continuer à produire de façon normale, si je peux dire, dans la continuation de leur activité traditionnelle, des produits d'hygiène corporelle, du savon, du dentifrice et du shampoing, qui sont aussi des produits utiles en cette période.
Le savon, on en parle un petit peu moins, mais j'imagine que la demande est en très très forte hausse aussi.
Alors, la demande du savon est sans doute moins, aujourd'hui en tout cas, en moins forte hausse, parce que c'est un produit qui est très généralement diffusé dans les foyers. Il est clair que d'ici quelques jours, il y aura une augmentation de cette demande. Pour l'instant, elle ne nous a pas été signalée de façon formelle, mais c'est en tout cas, on s'y prépare, oui.
Est-ce que vous arrivez à avoir assez de salariés pour travailler dans vos différentes usines ?
C'est effectivement un très bon sujet et nous avons beaucoup apprécié la communication gouvernementale récente qui ont rappelé que à partir du moment où les précautions étaient prises, il était important que les sites de production restent en activité. Certains de nos adhérents ont effectivement été amenés à fermer des sites à la suite de décisions qui ont été prises en lien avec les représentants de leur personnel. L'essentiel des sites sont encore en activité, heureusement.
Mais est-ce que la sécurité est réellement bien assurée ? Alors c'est peut-être plus facile chez vous en même temps que dans plein d'autres industries, puisque vous aviez peut-être déjà, vous, à la base, des masques et des gestes qui sont assez proches de ce qui est recommandé aujourd'hui.
Alors il est clair que l'hygiène est un souci permanent dans nos usines et que les gestes barrières sont des gestes qui sont généralement bien intégrés par le personnel dans les entreprises cosmétiques. Un certain nombre de précautions supplémentaires ont évidemment été prises, et notamment des dissociations d'équipes ou des alternances sur les chaînes, de telle sorte qu'on renforce encore ces mesures de protection des salariés.
Quand vous dites que vous avez apprécié les discours gouvernementaux, est-ce que malgré tout, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu compliqué qu'un Premier ministre vienne à la télévision pour dire bah, « c'est compliqué d'aller à un enterrement, mais vous devez aller... aller travailler, est-ce que malgré tout, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas très clair hein ?
Écoutez, moi ce que je lis en tout cas dans les récents comptes rendus et dans les différentes interviews qui ont été données par les membres du gouvernement, ça nous paraît clair en ce qui concerne le maintien de l'activité productive. Donc ensuite, il ne m'appartient pas de juger comment le gouvernement communique.
Alors, certains appellent aussi, dans les rangs gouvernementaux, à accorder des primes aux salariés qui font l'effort de venir travailler pendant cette période. Est-ce que ça pourrait être le cas chez vous du côté des entreprises de la beauté ?
Pour être tout à fait clair, nous avons demandé une éventuelle défiscalisation des primes exceptionnelles qui pourraient être versées parce qu'effectivement, certains salariés font des efforts tout à fait méritoires et tout à fait extraordinaires pour faire face à cet afflux de demandes de production de produits hydroalcooliques, de réorganisation de chaînes, de travail en 3x8, alors que parfois c'était des usines qui fonctionnaient en 1x8. Donc il y a, oui, un effort exceptionnel qui a été demandé et oui, un certain nombre de nos entreprises vont certainement être amenées à verser des primes exceptionnelles et donc on demande au gouvernement que ces primes soient défiscalisées.
Vous avez demandé, mais avez-vous une réponse pour le moment ?
Pour l'instant, non, puisque c'est une demande qui a été formulée hier et que, comme vous le savez, le gouvernement a de nombreuses demandes en ce moment. Donc nous pensons d'abord que ça n'est pas immédiat comme sujet, qu'il y a d'autres préoccupations. Mais en tout cas, nous n'abandonnerons pas cette
Est-ce
demande.
Que vous avez l'impression aujourd'hui que l'effort considérable que vos entreprises sont en train de faire est suffisant ? Est-ce que vous allez produire en assez grand nombre, si on revient par exemple au gel ?
La seule limitation que nous avons aujourd'hui, c'est la fourniture de matières premières et de matériaux de produits de conditionnement, puisque si nous n'avons plus d'alcool, pour l'instant c'est pas un sujet, si nous n'avons plus certains ingrédients, mais surtout si nous n'avons plus les flacons pour pouvoir emballer ces gels hydroalcooliques, il y aura un problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable déficit en la matière, il y a plus des problèmes de faire coïncider l'offre à un moment donné et une demande à un moment donné, ou l'offre à un lieu donné, enfin sur un lieu donné, et la demande sur un lieu donné. Mais
certains disent que quand même les flacons commencent à manquer.
Écoutez, pour l'instant, on ne nous a pas signalé de manque global. Il y a plus des manques un manque local, éventuellement. Une usine qui a fourni, qui a produit 100 litres n'a plus que 50 flacons d'un litre, pour prendre un exemple un peu simple. Mais il n'y a pas à notre connaissance de.
Eh bien, un grand merci Patrick O'Quinn, le président de la Fédération des entreprises de la beauté, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve lundi 22h20. Bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Emmanuel Dutheil, merci. Et à lundi, dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1. Les caissières face à la crise, c'est à la une de Centre Presse pour le numéro que vous retrouverez demain. avec toutes les mesures dont on a eu l'occasion aussi de parler sur Europe 1 et que nous raconte Centre Presse. Les plaques en plexiglas, les masques faits maison, les caissières sont confrontées à la crise sanitaire au quotidien et se protègent alors que nous avons bien besoin d'elles pour faire nos courses et nous réapprovisionner. Un article donc à lire dans le quotidien de la Vienne, Centre Presse. Et puis, sur une une nationale, le Figaro pointe déjà les ratés du confinement alors que le gouvernement va appliquer plus strictement, on en parlait au début de ce journal, les mesures de lutte contre l'épidémie. Eh bien, le quotidien consacre un long article à ces ratés du confinement qui tiennent souvent à l'indiscipline de certains qui effectivement le prennent à la légère. Et puis à la une du Figaro également, cette phrase de Bruno Le Maire, notre économie ne peut pas et ne doit pas s'arrêter. Le quotidien, donc le Figaro, qui traite aussi de cette épineuse question du rapatriement des Français de l'étranger. Pauline Jacquot nous en parlait il y a quelques instants dans le journal sur Europe 1. Libération, l'éditorial de Laurent Geoffrin, les économies de bout de chandelle. Alors que la polémique ne cesse de monter sur l'absence, le manque de masques pour les personnels soignants, la folle impréparation, titre Libération, et le directeur Laurent Geoffrin qui dans son éditorial explique qu'on a sans doute à travers cette histoire écorné aussi la confiance de l'opinion dans la parole publique, c'est-à-dire demain dans Libération. La Nouvelle République, Indre-et-Loire, avec cette question douloureuse pour beaucoup de familles, le deuil en petit comité, conséquence des mesures de confinement en Touraine comme ailleurs, les funérailles ont désormais lieu dans la plus stricte intimité. Le journal du Centre, lui, se consacre justement au report dont on parlait avec Cyril Delamorinet du service des sports d'Europe 1, des rencontres de football. Il va falloir décaler ces calendriers aussi bien pour le championnat national sans doute que pour d'autres compétitions d'un niveau un peu différent. Mais évidemment, tout est à l'arrêt aujourd'hui. C'est ce que l'on racontera donc demain le journal du Centre. Voilà pour les principales unes dont on avait envie de vous parler ce soir de vos quotidiens. Ce journal est à présent terminé sur Europe 1, mais vous allez retrouver Sabine Marin pour la libre antenne jusqu'à 1h du matin.